le pouvoir et le service, et que c'est bien l'interaction entre ces deux catégories qu'il faut honorer. Et c'est vrai que on se dit, est-ce que le service est une façon d'atténuer ce que la notion de pouvoir peut avoir de trop autoritaire, trop violente. En même temps, les deux sont absolument indissolubles dans l'Évangile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir sans service. Le Christ, on va le voir, a profondément reconfiguré les catégories de maître et de serviteur. Lui qui est le Seigneur et le maître, il a pris l'habit du serviteur. C'est-à-dire que, de maître qu'il est, il a pris le vêtement de celui qui sert. Il a donc profondément reconfiguré les notions et en même temps, attention, il ne les a pas fait disparaître non plus. C'est-à-dire que même s'il met les choses sans dessus-dessous, il laisse les notions subsister. C'est-à-dire que l'Église, instituée par le Christ, dans le royaume qu'il est venu commencer par son enseignement et par ses gestes, il y a toujours des relations de pouvoir et de service qui se maintiennent. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que si on oublie ça, eh bien, il y a fort risque que notre foi nous fasse tomber dans l'anomie, dans une sorte d'anarchie qui ne serait pas vraiment féconde. Non, ce que le Christ est venu faire, c'est donner à l'autorité un motif et un type d'exercice entièrement nouveau. Et du coup, c'est ça qu'il nous laisse. Alors, chacun peut en tirer parti, puisque, bien entendu, l'autorité s'exerce dans une communauté, mais vous savez que les philosophes, Platon et Aristote en particulier, ont volontiers utilisé la comparaison de l'individu avec une cité, puisque nous-mêmes, nous sommes composés de différentes parties, d'une volonté, d'intelligence, d'appétit sensible, de sens externe, de sens interne, de désir sensible, d'imagination, de sensibilité. Bref, il y a en nous une multiplicité de facultés qui, si elles ne sont pas tenues par un principe commun, risquent fort de tirer à U et à Dia. Là, vous reconnaissez la grande image de l'âme dans le Phèdre de Platon, où cet attelage avec plusieurs chevaux, il n'y a pas de principe d'unité dans une âme qui est vicieuse, ça tire dans tous les sens. Donc, d'une certaine manière, pouvoir et autorité, ça nous concerne déjà même nous, individuellement. Qu'est-ce qui gouverne en nous? Qu'est-ce qui exerce l'autorité dans notre propre personne? Non pas sur notre propre personne, mais dans notre propre personne. Qu'est-ce qui déjà, à ce niveau-là, exerce l'autorité? Qu'est-ce qui sert? Est-ce que on ne fait pas justement, est-ce qu'on ne met pas les serviteurs à la place des maîtres? Là, c'est une question que je ne veux pas résoudre parce qu'elle n'est pas spécialement celle de l'Évangile, mais néanmoins, oui, ça nous concerne tous, cette question-là. Tout le monde, on le sait d'ailleurs, les grands chefs, c'est ceux qui savent obéir. Dans l'histoire des hommes, ceux qui ont vraiment su guider les autres, c'est ceux qui, à un moment, ont su se mettre à l'école de quelqu'un d'autre. Donc, les deux choses, vous voyez, sont quand même profondément liées. En même temps, ce sur quoi je vais quand même insister beaucoup, c'est cette dimension propre du service et de l'autorité dans l'Église, ou en tout cas, que nous transmet le Christ, plutôt. Le verbe grec qui signifie « servir » a le sens originel de « servir à table ». Et ce qu'il a d'intéressant, vous voyez ce verbe, c'est l'idée aussi d'un service qui est un service rendu, une relation interpersonnelle. Ce que met la notion, le verbe grec, diakoneo, d'où viennent nos diacres, en français, et ce qui a fait que ça a été retenu d'ailleurs par le vocabulaire des évangélistes, c'est cette dimension de réciprocité, en quelque sorte d'interpersonnalité qui caractérise ce verbe. C'est-à-dire servir, c'est-à-dire se mettre au service de quelqu'un, non pas d'abord d'une cause, d'une idée, d'un projet, mais ce qui est au cœur de la réflexion dans l'Évangile, c'est se mettre au service de une telle. La dimension est donc fondamentale, c'est pour ce que nous avons, ce qui va pas nous de creuser de façon définitive et vraiment profonde la notion, c'est que le service est motivé par la charité. Et en ce sens, le service est aussi une école de vie, une façon d'orienter sa vie, de lui donner un sens, de lui donner une finalité, un but qui est finalisé par l'amour du prochain. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important, parce que quand vous regardez le Gorgias, alors c'est marrant parce que je ne me suis pas concerté avec les responsables de l'université chrétienne de Castanet, mais j'ai vu que dans la petite librairie qui se trouve à côté, eh bien, on a pensé à mettre le Gorgias de Platon. Et de fait, c'est intéressant de problématiser cette notion de service à partir de lui, parce que dans le Gorgias, on lit, c'est pas forcément la position de Platon, mais néanmoins, il la répercute. Qui donc peut être heureux s'il est l'esclave de qui que ce soit, ou s'il sert qui que ce soit. Dans la mentalité commune à laquelle se réfère Platon, le service ne peut pas être quelque chose de désiré. Le service et la servilité, pour lui, ne font qu'un. D'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est dans le Gorgias aussi, le serviteur est nécessairement une personne d'âme vile et basse, qui est comme corrompue intérieurement par sa servilité. Vous voyez, c'est la deuxième citation que je vous ai mise sur le petit exemplier. « Quelle sorte de soin m'invites-tu à prendre à l'égard des Athéniens ? Explique-toi, est-ce celle qui consiste à lutter contre eux pour les rendre meilleurs, ou celle qui me donnerait envers eux une attitude de flatteur et de serviteur ?» Donc, l'attitude d'un serviteur, elle n'est pas franche. Elle est rampante. Bref, la condition servile entraîne nécessairement une espèce d'hypocrisie et de faiblesse du caractère, tel que ça apparaît dans le Gorgias. Vous voyez, ce que nous dit Platon, c'est la mentalité commune, hein, c'est la croyance commune. Et nous-mêmes, c'est aussi ce que nous recevons, hein, d'une certaine manière, de l'esprit du monde. Pas au mauvais sens du terme, bien sûr, mais c'est quelque chose qui fait partie aussi de la manière dont nous envisageons le service. Dans un autre passage du Gorgias, il distingue les métiers. Alors, entre les métiers libéraux, de ceux qui s'occupent de l'âme, donc les professeurs, les enseignants, les magistrats, que sais-je, et puis les gens qui s'occupent des soins du corps, qui satisfont aux besoins du corps, les boutiquiers, les boulangers, eh bien, ces métiers sont décrits comme convenant aux esclaves, serviles, c'est-à-dire appropriés à des serviteurs, et illibéraux, c'est-à-dire manquant de libéralité, de générosité, de sens de la grandeur. Alors, malgré tout, le service n'est pas entièrement discrédité chez Platon. Les services ont parfois de la valeur lorsqu'ils sont rendus à la patrie. Platon dit encore dans le Gorgias, « Ceux qui servent la patrie en quelque chose, il faut les servir sans attendre de cadeaux en retour. » Mais on voit bien que dans cette mentalité commune, hein, que répercute Platon, le but de la vie est le développement de la personnalité individuelle. Et c'est en fonction de ce but-là, qui est le développement de ses propres potentialités, que le service peut être considéré quelque chose de justifié ou non. Un homme, en toute logique, ne devrait être au service que de ses désirs et de ses propres buts. Mais c'est vrai que comme les hommes font aussi partie d'un ensemble qui ne sont pas l'univers entier, hein, et que chaque individu fait partie d'un tout, eh bien, il y a aussi une certaine légitimité quand même à se mettre au service d'un but qui n'est pas uniquement le sien, mais qui est aussi celui du bien commun, du monde dans son entier, de la cité, hein, de l'univers, du cosmos. Et donc, il est beau de servir la patrie, par exemple. Hein. Chez Platon, il est très beau de mourir pour sa patrie, avec l'exemple classique dans la Grèce antique des combattants de Marathon, dont on faisait chaque année l'éloge, pour dire la beauté du service qu'ils ont rendu. Mais vous voyez, ici, ce qui compte, c'est le service est finalisé par quelque chose de plus grand que soi, qui est une communauté plus vaste, la cité, voire, après, au fur et à mesure que la philosophie se développe, l'humanité tout entière, ou l'univers, que sais-je. Mais voyez, ce qui manque par rapport à ce que l'on trouve dans l'Évangile, c'est la dimension interpersonnelle absolument décisive dans le service tel que le présente le Christ. Ce qui fait que le service est la plus belle chose qui soit dans l'Évangile, c'est parce qu'il est motivé par l'amour du prochain. Voyez, et ça, pour le coup, c'est une chose que que, qui restait totalement inenvisageable à Platon, à Aristote, même s'ils, évidemment, le Gorgias est tout entier voué, par exemple, à lutter contre une sorte d'égoïsme très fort qui est représenté par un certain Callicles, une personnalité assez moderne, qui est un petit peu nietzschéenne. Et néanmoins, si vous voulez, bien entendu, que se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi est tout à fait légitime et beau chez Platon, mais néanmoins, ça n'est jamais motivé par l'amour du prochain. C'est simplement aller au-delà, c'est se mettre au service d'une communauté plus grande que celle que l'on forme soi-même. Il y aurait beaucoup à dire, je veux m'y attacher un petit peu dans le fil de l'exposé l'Ancien Testament, mais je ne vais pas partir de ça parce que quand même on n'a pas tant que ça non plus, et il faut parler justement de l'Évangile, c'est ça qui est fondamental. Il est intéressant de voir que le sens de premier de service, à savoir servir à table, se trouve encore parfois dans l'Évangile. Par exemple, le verbe est employé pour Marthe, lorsqu'elle est occupée aux multiples affaires du service. Donc c'est parce qu'elle fait la cuisine, en fait, concrètement. On l'a aussi dans l'Évangile de Jean. Attendez, je vous donne deux exemples. Chapitre 12:2, pardon. On lui faisait un repas, Marthe servait. Oui, c'est la deuxième fois, d'ailleurs, c'est intéressant. Deuxième fois que Marthe apparaît et dans le service et service des tables. Donc il y a non seulement le fameux épisode avec Marie-Madeleine, sa sœur, qui est au pied du Christ et qui écoute sa parole, tandis qu'elle fait la cuisine, mais il y a aussi cette deuxième occurrence, là où Marie va apporter un flacon de parfum, le briser sur les pieds du Christ, et pendant ce temps, Marthe servait. Donc vous voyez, ce sens de servir à table, il est conservé. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans. Il y a un très bel usage, qui s'est conservé d'ailleurs dans les communautés religieuses, de faire le service de table. Oui, dans le couvent de Rangueil, nous avons chaque frère a un jour où il fait le service de table pour ses frères. Et comme nous sommes 45, et bien, ça, il y en a un peu plus, donc ça permet de dispenser les frères âgés. Mais vous voyez, il y a quelque chose de quand je le fais, finalement, je me dis, ça fait suer, franchement, on préférerait papoter. Et puis en fait, non, on se dit, servir à table, c'est quelque chose de très beau et de très noble quand on y songe. C'est-à-dire, apporter le pain et le vin. Rappelez-vous notre frère, le père de Bourqueuil, qui s'occupait d'enfants des rues à Kaboul, il avait appelé son livre où il raconte ses souvenirs. Apporter le pain et le sel, qui est une façon d'entrer en contact et en communion avec les gens. C'est vrai que ce service de table, il y a quelque chose de très noble, parce qu'il y a dans le repas une dimension qui est presque liturgique, vous voyez, puisque dans un repas, il y a une entrée, un plat, un dessert, il y a des couverts, il y a de la vaisselle, il y a de la propreté, il y a des nappes, il y a toute une immense ritualisation splendide qui entoure le fait de prendre des repas, surtout dans nos cultures latines et méditerranéenne. Et du coup, c'est vrai que se mettre au service de cette ritualité est quelque chose de gratuit, de mise au service de la beauté. Donc c'est pas un hasard que la notion de service comme service de table soit maintenue dans l'Évangile, conformément au sens classique. Et vous savez que les diacres, en fait justement l'institution des diacres, des diakonoi, des serviteurs, c'est justement parce qu'ils sont voués au service des tables. C'est-à-dire, ils sont voués au service des tables, c'est-à-dire approvisionner la table pour les pauvres, en particulier pour les membres de l'Église qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Et donc, il y a des ministres de l'Église spécialement institués pour ce service-là, parce que c'est le service noble par excellence, puisqu'il exprime justement la charité et l'amour fraternel. Vous voyez, ça, là, il y a quelque chose de très très fort. Et dans l'histoire de l'Église, c'est pas de question tout de suite, parce que sinon, on les gardera pour tout à l'heure. Dans l'histoire de l'Église, vous savez que dans l'Église antique, les diacres étaient les véritables administrateurs de l'Église. Et il n'était pas rare que le passage se fasse de diacre à évêque. Aujourd'hui, c'est de prêtre à évêque, mais dans l'Antiquité, c'est souvent de diacre à évêque, parce que les diacres réalisaient le ministère de la charité dans l'Église. Et c'est donc la genèse de cette prise de conscience, c'est le service des tables, parce que c'est la nourriture, et puis du coup, après, ça finit par inclure aussi le vêtement, le logement, enfin vous voyez, il y a tout ce qui peut rentrer au fond à travers la nourriture. Ce que l'on signifie, c'est vraiment les nécessités primordiales de la vie qui ne touchent pas seulement la nourriture mais aussi le logement et pourquoi pas la culture, vous voyez, et l'instruction, et bref, ça peut après finalement ce service finit par englober beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si vous regardez, le Christ emploie ce verbe servir dans l'évangile du jugement dernier, et justement ceux qu'il met à sa droite, les brebis, eh bien, c'est ceux qui ont nourri, visité les prisonniers, qui les ont habillés, qui ont habillé ceux qui étaient nus, etc. Donc là, on voit que c'est l'extension, en fait, de ce que signifie au premier chef le service de la table, c'est-à-dire les nécessités primordiales, et partagées dans l'Église. Ça, vous voyez, c'est quelque chose de très, très intéressant de voir hein, que, au fond, le lieu génétique, en quelque sorte, de la notion complète de service, c'est à partir du service de la table que c'est né, et de tout ce que ça peut signifier par la suite. C'est un honneur que de servir dans ces conditions. Alors, le texte très important qu'il faut regarder, c'est qui est absolument fondateur, que je vous ai mis sur le petit exemplier, se trouve au chapitre 22 de l'évangile de Saint-Luc. Nous sommes dans un moment solennel par excellence, puisque c'est l'institution de l'Eucharistie, autre forme de service de la table, hein, malgré tout, que le Christ opère à ce moment-là. Et est-ce que ça veut dire que le Christ a pris la place du serviteur ? Oui, bien sûr. La preuve, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc il a pris la place du serviteur. Mais néanmoins, il est resté le maître. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, quand on regarde de près, il a une formule qu'on retrouve ailleurs dans les évangiles. On vous a dit, moi je vous dis. Donc ici, c'est vraiment la même chose. Vous pensez que le plus grand, c'est celui qui est servi. Moi je vous dis que je suis celui qui sert. Donc ça veut dire que quand le Christ dit ça, il revendique l'autorité suprême. D'ailleurs, c'est classique, hein, lorsqu'il dit « on vous a dit, moi je vous dis », »,« on vous a dit », c'est Moïse. C'est pas n'importe qui quand même. Une autorité incontestée, incontestable. Donc, quand le Christ dit « moi je vous dis », ça veut dire qu'il prétend être supérieur à Moïse. En tout cas, que son autorité est plus grande que celle de Moïse. Donc là, c'est la même chose. C'est bien en vertu de son autorité supérieure qu'il peut dire qu'il est celui qui sert. Donc vous voyez, on revient à ce que je vous ai dit pour introduire cette intervention. Le Christ, il reconfigure les notions de les rapports de maître à serviteur, mais il ne les détruit pas, parce qu'il ne veut pas faire tomber l'Église dans l'anomie, dans l'anarchie. Il maintient les rôles, mais en revanche, il les redéfinit complètement. Et alors, c'est autrement plus profond que on ne sait quelle suppression des hiérarchies instituées. Ce qu'il fait est autrement plus profond. On va y venir. Donc, je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. Ça veut dire que la place du serviteur est une place suprêmement honorable. Ça, c'est tellement beau aussi. Du coup, ce n'est pas la condition de serviteur n'est pas quelque chose qui avilie, qui dégrade, hein, qui rend hypocrite ou sinueux ou rampant. Non, la condition de serviteur est celle qui est le plus grand honneur. C'est la chose la plus belle que l'on puisse réaliser. Mais du coup, il ne s'agit pas d'être un serviteur travesti, il faut être vraiment serviteur. Mais c'est la condition, c'est une condition qui est vraiment honorable. Je me suis même demandé, vous voyez, en préparant cette intervention, si ce n'était pas ça précisément que le Seigneur voulait faire comprendre à Marthe dans le fameux épisode avec Marie-Madeleine. Dans la mesure où il consent à abandonner à Marthe la condition de servante, il lui fait un très grand honneur. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très, très, c'est quelque chose d'extrêmement important, ça. Parce que puisque le Christ est au milieu des siens comme celui qui sert, lorsqu'il consent à abandonner cette place pour se laisser servir, c'est une grande marque d'honneur qu'il fait aux siens. Il leur abandonne la place du maître, en quelque sorte. C'est magnifique, ça, quand on y songe. C'est-à-dire que, et regardez, d'ailleurs, c'est marrant, hein, je vous ai mis tout à l'heure, je vous ai mis aussi sur l'exemplier, une citation de Luc, chapitre 8, verset 3. Alors, 2 et 3, pardon. Il cheminait annonçant l'évangile du royaume de Dieu, les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie la Magdaléenne, de laquelle était sortie cette démon, Jeanne, femme de Cusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les servaient. La BJ dit qu'ils les assistaient de leur bien. Pourquoi pas ? Mais le verbe, c'est vraiment le verbe servir qui est employé à ce moment-là. C'est-à-dire que, comme je le pense, et avec une grande tradition de l'Église, une grande tradition dominicaine en plus, cette Marie de Magdala n'est autre que la sœur de Marthe. C'est intéressant là, de voir les deux, vous voyez, parce que d'une certaine manière, il y a celle qui sert avec fierté, Marie de Magdala, et puis l'autre qui récrimine un petit peu. Bon. Bon, ça ne veut pas dire que ce soit une méchante femme du tout, hein. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas encore rentrée tout à fait dans ce que le Seigneur veut lui faire comprendre. Au fond, que la place la plus honorable, c'est celle de celui qui sert. Comment ? Ça, on n'en sait rien. Mais en revanche, la place la plus honorable, c'est celle de celui qui sert, ou de celle qui sert. Que ce soit donc Marie de Magdala, ici, qui sert. Franchement, vu le profil de ces dames-là, hein, Marie de Magdala, Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode, du Premier ministre, Suzanne, c'est pas le genre de femme à fermer leur caquet, hein, voyez. Ça, on sent plutôt des... Moi, je définirais plutôt ces dames-là comme des grandes dames déjantées, parfaitement libres de leurs mœurs et de leur comportement. Et du coup, des femmes extraordinaires, mais alors, je veux dire, justement, pas des femmes très, très entreprenantes. Mais justement, vous voyez, c'est ça qui est beau, c'est qu'elles sont rentrées dans ce que le Christ leur a fait découvrir, c'est-à-dire que le plus grand honneur, c'est d'être à la place du service. C'est pour ça qu'elles sont des converties, vous voyez. Et de la même manière avec Marthe, au fond, peut-être que Marthe, elle ne rentre pas complètement dans l'intelligence de ça. En tout cas, regardez aussi, ne serait-ce que, après tout, se laisser servir n'est pas facile. Accepter d'être servi, avec quelle extraordinaire simplicité, quelle royale simplicité, justement, le Christ reçoit l'offrande de Marie-Madeleine lorsque cette pécheresse repentie vient arroser ses pieds avec ses larmes et les essuyer avec ses cheveux. Elle accomplit pour le coup un geste de service, d'hospitalité, d'accueil, de pénitence, ça part, mais d'abord, hein, ce qui compte, c'est d'abord un geste de mise au service. Avec quelle délicatesse le Christ reçoit l'offrande de son service. Eh bien, là, pour le coup, c'est en se laissant servir comme ça, il a suprêmement honoré cette femme, ces femmes d'ailleurs. Vous voyez, c'est important, hein, parce que du coup, là, on se rend bien que dans ces conditions, le service est entièrement dénué de tout ce qu'il peut avoir de dégradant et d'hypocrite, et au contraire, il est envisagé comme la forme la plus, une forme presque pure de l'amour du prochain. C'est ce que nous allons voir dans ce que je vais vous dire encore sur sur le service dans l'évangile. Alors, d'une certaine manière, le service dans l'évangile devient presque une fin en soi, plutôt non. C'est-à-dire qu'il est, puisqu'il est motivé par l'amour du prochain, il devient vraiment une manifestation très haute, très précise, très réelle, très concrète de la charité et du commandement d'amour interpersonnel. Et donc, à ce titre-là, il finit par être recherché pour lui-même, vous voyez, par être vraiment quelque chose qui est un but de la vie régénérée par l'esprit du Christ. Ça, là, on est aux antipodes du Gorgias de Platon, hein, ça c'est clair. Hein. Vous voyez, par exemple, hein, là où c'est très très apparent, c'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, versets 25 et 26, je vous l'ai mis sur l'exemplier. « Celui qui aime sa vie la perd, celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous voyez que ici, dans ce degré de profondeur atteint par la notion de service, eh bien, il finit par devenir vraiment quelque chose d'oblatif. Hein. C'est-à-dire que le service va jusqu'au don de soi, jusqu'à l'extrême. Le contexte montre bien que celui qui aime, qui sert jusqu'au bout, ira jusqu'à perdre sa vie. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là aussi, là où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. D'une certaine manière, ici, le service devient l'expression de la vie intérieure oblative, du don de soi qui est motivé par l'amour du prochain. Et du coup, puisque c'est ce qui fait vivre intérieurement cet amour qui réside en nous par l'Esprit Saint et par l'amour qui a été répandu par le Christ lui-même dans sa passion, eh bien, c'est une raison de vivre, une raison d'être, et du coup, ça devient un secret intérieur. Le secret de la vie dans l'alliance, du fait que l'on a la vie collée à la vie pascale qui sort du côté du Christ. Et donc, ça finit par devenir, le serviteur finit par devenir le nom du Christ lui-même en tant qu'il s'offre pour la vie du monde. Et là, c'est d'ailleurs tout à fait remarquable, parce que, comme vous savez, parmi les prophéties les plus anciennes qui sont mobilisées par la génération des apôtres pour rendre compte du scandale de la croix, eh bien, il y a les fameux oracles du serviteur souffrant. donc de ce mystérieux personnage dans Isaïe qui donne sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire qui consent à l'offrande suprême de lui-même par amour de son prochain. Et donc la tradition d'Israël nomme ce personnage, d'ailleurs c'est comme ça qu'il est appelé dans le livre d'Isaïe lui-même, le serviteur. Alors il y a deux noms, on dit le serviteur souffrant, mais en fait c'est pas le serviteur souffrant, parce que c'est pas un mot biblique. Dans la Bible c'est le serviteur du Seigneur. Et donc c'est celui qui s'est mis au service du dessein bienveillant de Dieu le Père, qui est de répandre son amour dans les cœurs de façon à arracher les hommes à la perdition. L'accomplissement de la volonté du Seigneur est interprété par la première génération chrétienne en termes de service. C'est-à-dire que le Christ est par excellence le serviteur, parce qu'il s'est mis au service par amour de son prochain du dessein de Dieu. Donc là, vous voyez, alors après avoir qualifié le service comme motivé par la charité interpersonnelle, on en vient même ici avec le service comme définissant la relation même du Christ à son Père. Et donc, alors là même, donc forcément dans l'Esprit Saint. Donc là, nous avons même des connotations trinitaires de la notion de service qui finissent par germer. Donc vous voyez, c'est clair que là, nous sommes rentrés dans une intelligence proprement biblique de la notion de service. Et ne me dites pas que c'est trop compliqué ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que c'est l'intelligence biblique de la chose. Forcément, on a besoin de la Bible pour comprendre les choses que nous, on ne comprenait pas tout seul. Voilà ce que, jusqu'à quel degré d'incandescence la Bible porte la notion de service. C'est ce qui exprime la relation de service du Christ à Dieu pour accomplir son dessein bienveillant. Dans la Trinité, de fait, l'opération du Verbe n'est pas un service. C'est une... Parce que, je veux dire, là, en revanche, c'est le Christ, Verbe incarné, qui lui accomplit le service permettant au dessein de Dieu de s'accomplir, comme d'ailleurs c'est dit dans Isaïe 53, le quatrième oracle du serviteur du Seigneur. C'est parfaitement logique. Alors, donc après cette séquence, vous voyez quand même assez dense, vous voyez, je termine cette partie sur le service, à partir de ce que dit l'épître de Pierre, l'épître aux Romains aussi. Au fond, c'est à partir de ce que je viens de vous dire qu'il faut comprendre les admonestations à se mettre au service les uns des autres, telles qu'on l'a dans la littérature apostolique. Chez Saint Paul, chez Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres aussi. Alors par exemple, chez Pierre, mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce du Seigneur, variés en ses effets. Donc mettez-vous au service les uns des autres, c'est-à-dire en ayant cette disposition du Christ lui-même qui s'est mis au service du dessein bienveillant de Dieu, et que c'est cette disposition intérieure qui commande toute position de service et donc d'autorité, on va y venir, dans l'Église, c'est-à-dire finalisée par le tissage des liens de la charité entre les membres du Christ régénérés par l'Esprit Saint. Très souvent, donc, par exemple, alors, chez Paul, c'est certainement un de ceux qui donne le plus d'extension hein, à cette diaconie, à ce service, alors lui, avec beaucoup de formes différentes. Deux éléments intéressants chez saint Paul. D'une part, il parle souvent de ce qu'il appelle le service des saints, la diaconie des saints. Les saints, pour lui, ce sont les membres de l'Église. Et donc, de fait, ça veut dire que c'est ce qui doit présider aux relations interpersonnelles dans l'Église. Donc, c'est de cette manière, le service manifeste la forme des rapports sociaux, si j'ose dire, dans l'Église. C'est ça qui est le... Vous voyez, forcément, donc, dans l'armée, dans l'État, il y a des rapports sociaux qui sont ce qu'ils sont. Bon, dans l'Église, les rapports sont des rapports de service. C'est ça qui définit, parce qu'encore une fois, c'est la disposition du Christ charitable. Et donc, c'est celle qui permet de maintenir ça dans l'Église. Donc, c'est pour ça que Paul insiste beaucoup sur cette diaconie des saints. Hein. Et il ne conteste pas, bien sûr, qu'il faille aussi servir les hommes et les femmes qui ne sont pas d'Église. Mais néanmoins, c'est, dans l'Église, ça doit vraiment trouver sa traduction immédiate. Ou alors, un lieu intéressant... Vous savez que Paul, à la fin de sa vie, a consacré beaucoup d'efforts à organiser une collecte au profit de l'église de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a quêté de l'argent dans les églises qu'il avait fondées, surtout en Grèce, pour l'église mère de Jérusalem. C'est une manière pour lui de signifier la communion entre les églises. Et puis on sent que ça a aussi, il y a aussi une vertu pédagogique là-dedans, puisqu'il présente cette collecte comme un service. Et du coup, ce qu'il dit aux chrétiens qui viennent du monde païen, hein, bien sûr, de Grèce ou d'Asie mineure, ce qu'il leur dit par là, c'est à quoi ressemblent les rapports interpersonnels dans l'église. Ce sont des rapports de service. Et donc, cet argent que vous donnez pour les pauvres de l'église mère, eh bien, c'est un service réciproque. C'est donc quelque chose qui noue les liens, qui tisse les liens de la charité entre des églises qui sont séparées par des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc, c'est intéressant, vous voyez, de réinterpréter, hein, la collecte financière en termes de service. Ça permet de lui donner un sens profond à partir de l'œuvre du Christ qui a tout donné. Il faut que je fasse attention au temps quand même. J'ai encore quoi, à peu près 10 minutes, c'est ça ? Donc c'est pour ça que le service désigne aussi le ministère apostolique. Alors en Actes 1:17, 1:25, 12:25, 20:24, là je vous en donne un exemple. C'est Paul qui parle. Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun prix à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confier, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Après, donc vous avez des lieux très beaux, hein, donc l'évangile du jugement dernier, ou chez Paul, qui montre que ce service peut s'accomplir de beaucoup de manières différentes. Il y a le service des tables, bien sûr, après le service, justement, lui, de l'évangile, hein, qui est donc à savoir son gouvernement, mais surtout, certainement, sa condition d'évangélisateur, c'est-à-dire d'homme qui annonce la parole. Et puis après, il y a aussi d'autres services, hein, il y a le service de, je sais pas, de théologien, c'est un service, le service de la charité concrète, le service de... toute activité orientée vers son prochain peut être entendue comme un service, à condition que ce soit vécu avec cette disposition du Christ qui le fait par amour de ses frères et pour obéir à la volonté de Dieu. Oui, après ça devient une catégorie qui peut s'étendre à l'infini, hein, pour définir au fond tout ce qui se vit dans l'Église. Donc voilà, vous voyez, quelque chose de vraiment important, et donc ce qu'il faut vraiment, c'est le situer dans sa source, qui est donc cette disposition intérieure du Christ qui a changé la manière de voir des choses. Hein. Vous voyez, il y a un exemple très intéressant, un parallèle tout à fait, on pourrait faire entre le service, sur l'évolution du mot et de l'idée sous-jacente, avec par exemple la notion de confession. La confession, vous voyez, dans l'Antiquité, la confession est toujours l'aveu d'un crime. En latin, en grec, exomologeo, confiteor, en latin, en grec, le mot signifie en fait l'aveu judiciaire, d'ailleurs assez souvent, d'une faute commise. À l'époque où les chrétiens étaient hors la loi, du coup, leur arracher l'aveu de leur appartenance au Christ, c'était leur arracher une confession, c'est-à-dire un crime. Et du coup, dans la première Église, hein, même encore dans l'Évangile, la confession du nom du Christ reste un crime, quelque chose de scandaleux, donc qui entraîne des peines parfois très lourdes, parfois même la mort, pour ceux qui en sont les auteurs. Et finalement, le problème, c'est que le renversement des choses fait que les martyrs, lorsqu'ils ont confessé le nom du Christ, est devenu pour eux un titre de gloire. Non, certes, la justice leur en faisait un crime, mais en réalité, eux, ce qu'ils faisaient, c'était une bonne œuvre. C'est-à-dire, ils allaient jusqu'au bout de leur appartenance au Christ en confessant son nom à la face du monde. Et donc, du coup, on voit comment le terme de confession, qui était un crime, Cicéron dit, il y a toujours quelque ignominie dans une confession. Il disait ça. Et donc, ce mot qui était un crime est devenu, au contraire, le symbole même du renversement des choses opéré par le Christ. Eh bien, on peut dire que le service, c'est tout à fait analogue. C'était associé donc à quelque chose de vil et de bas. Bon. Et le Christ l'a complètement transformé en faisant, au contraire, la forme la plus parfaite de la vie, mais ça ne se comprend que par la charité. Vous voyez, c'est uniquement la charité, le commandement de l'amour de Dieu et du prochain, qui donne au service ce sens, eh bien, que l'on vient de détailler ensemble. Vous voyez, c'est-à-dire de valeur suprême, en quelque sorte. Et qui donc, c'est quelque chose qui récapitule, hein, la nouveauté de la morale dans l'Esprit Saint. Vraiment. Alors, bon, vous voyez, comme, dans la mesure où ceci m'a paru quand même vraiment avec des conséquences pratiques aussi, hein, tout à fait évidentes, bien entendu, c'est pour ça que j'ai voulu insister là-dessus, mais il faut quand même aussi parler un peu du pouvoir. Bon, alors, je suis désolé si c'est pas forcément, c'est pas très très bien lié pour pouvoir et services, enfin, il fallait commencer par ça, hein, c'était à mon avis le plus important. Alors, sur la suite de l'exemplier, on va essayer de suivre un petit peu ce qui est dit du pouvoir dans l'Évangile. Alors, on peut partir. Ici, au fond, vous allez voir qu'en fait, c'est complémentaire. Prenons, pour commencer, cette très belle citation du livre de Ben Sira, du Siracide, chapitre 17. « Le Seigneur a créé l'homme de la terre et l'y a fait à nouveau retourner. » Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé. Il leur a donné pouvoir sur toutes les choses de la terre. Comme lui-même, il les a revêtus de force, il les a fait à son image. Il les a fait redouter de tout être vivant pour qu'ils soient les maîtres des bêtes sauvages et des oiseaux. Il leur a donné le jugement, la langue et les yeux, les oreilles et le cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence, il leur a montré le bien et le mal. Il a établi sa crainte dans les cœurs pour leur montrer la magnificence de ses œuvres. Et ils loueront son saint nom afin de raconter la magnificence de ses œuvres. Alors, vous voyez, ça paraît évidemment que Ben Sira est ici inspiré par le début de la Genèse, puisqu'il mentionne le fait que l'homme est fait à l'image de Dieu. Bon, ça c'est Genèse 1:26, bien sûr. Il a créé l'homme de la terre, donc ça c'est lorsqu'il façonne à partir du limon. Il l'a fait retourner, oui ça c'est après la chute, tu retourneras à la poussière, donc Genèse 3. Et ensuite, il leur a donné pouvoir sur toutes les choses de la terre, donc ça c'est Genèse 1:28, après l'avoir fait à son image, il leur a donné de dominer sur la création, sur les animaux, sur les poissons, etc. Donc c'est très important ça. La Bible, ici dans un texte assez classique comme celui-ci, pense la notion de pouvoir, donc à partir de la Genèse, et du pouvoir que Adam et Ève ont reçu de Dieu pour gouverner la création. Donc ça veut dire que le pouvoir est d'emblée donné comme quelque chose de délégué. Ça c'est très important. La Bible ne peut pas penser un pouvoir humain sans l'origine de celui qui le délègue. Rappelez-vous même à l'heure solennelle de Jean 19, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher ?» Et le Christ répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » D'accord ? Donc même, ça c'est là vous avez ici un texte, un truc d'une portée inouïe, à savoir que Pilate, qui représente l'empereur romain, considère qu'il ne doit son pouvoir qu'à l'empereur, bon, mais qu'il fait corps avec lui puisqu'il est son représentant dans la province de Palestine. Et donc le pouvoir est une réalité pour Pilate qui est sui generis, hein, qui en quelque sorte est façonné par la machine administrative, une certaine conception de la providence aussi d'ailleurs chez Pilate sans doute, mais d'une providence impersonnelle qu'il a mis lui à la place du pouvoir absolu. Et le Christ répond à ce moment-là, hein, c'est un moment solennel quand même, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il n'avait été donné d'en haut. Même celui qui est le plus extérieur, le plus étranger au dessein bienveillant de Dieu, néanmoins son pouvoir, il ne l'a pas en propre. Et c'est un pouvoir qui est délégué, donc ça veut dire qu'il devra en rendre compte. C'est quelque chose de fondamental. C'est à partir de là qu'il faut penser la catégorie de pouvoir dans la Bible, ou d'autorité. D'ailleurs, c'est pas un hasard si, on va le voir à l'instant, lorsque les foules admirent le pouvoir de Jésus pour remettre les péchés ou pour chasser les esprits impurs, ils se demandent, mais qui est-il ? D'où tient-il ce pouvoir-là ? Pour des juifs, c'est immédiat. Dès lors qu'un pouvoir se manifeste, d'où est-ce qu'il vient ? Quelle en est l'origine ? Parce que selon cette origine, ce pouvoir sera justifié ou pas. Alors, c'est quelque chose de fondamental, parce que ça veut dire que tout pouvoir humain, puisqu'il est délégué, il doit rendre des comptes, et d'autre part, il doit imiter la manière même dont Dieu gouverne. Et ça, le livre de la Sagesse, pour ça, à une formule magnifique, tu mènes, tu es tout puissant, donc tu peux tout gouverner avec douceur. sœur. C'est justement parce qu'il est tout puissant qu'il peut gouverner avec, précisément, l'autoritarisme. La schlag, c'est la marque d'un pouvoir vacillant, d'un pouvoir faible. Ça, c'est classique. D'ailleurs, dans l'histoire, plus un pouvoir est violent, plus ça veut dire qu'il est... Il manque d'assises. En France, on a bien vu, le pouvoir le plus violent que nous avons eu, c'était celui du comité de salut public en 1793-1794. Bah, il était assis sur une brindille et il s'est effondré à une vitesse folle. Et plus un pouvoir est violent, plus il est faible, en fait. Alors que qu'est-ce que exercer pour les hommes le pouvoir délégué, et donc selon le mode que Dieu le délègue, c'est-à-dire c'est gouverner par la douceur. Alors bon, c'est en tout cas, c'est, parfois il faut faire usage de fermeté, bien sûr aussi. Mais néanmoins, il faut toujours avoir à l'esprit quelle est la forme du pouvoir tel qu'elle nous est donnée par Dieu. Dieu, parce qu'il est tout puissant, peut gouverner avec mansuétude. C'est pour ça qu'il peut être miséricordieux d'ailleurs. Parce qu'au fond, sa clémence n'entame pas sa souveraineté. Alors que pour les pouvoirs violents de la terre, dès lors qu'il resserre un tout petit peu la contrainte, eh bien ça veut dire qu'il desserre un peu la contrainte, c'est le signe qu'il ne contrôle plus. Alors que Dieu, c'est l'inverse. Parce qu'il domine, quand il desserre la contrainte, c'est la preuve qu'il domine, justement. Et donc, évidemment, ce que je vous dis là, c'est pas n'importe quoi, parce que la forme supérieure du gouvernement de Dieu, donc de sa providence, pour atteindre le but qui était le plus compliqué, c'est-à-dire racheter les pécheurs, eh bien, ça a été l'offrande de son Fils. Bon, ben ça, c'est pour le coup une très très grande clémence que Dieu nous a faite, qui dit comment s'exerce son pouvoir. Encore une fois, ça demande de reconfigurer les choses en profondeur. Alors, vous voyez, pour vous montrer ensuite à quel point le Christ reconfigure mais n'anéantit pas les notions traditionnelles, on peut regarder les exemples suivants. Par exemple, en Matthieu 7, 28, 29. « Quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité. » Et non pas comme les scribes. Vous voyez, là, l'autorité est vraiment charismatique, qui tient à sa parole, à la puissance de son verbe, à sa capacité à faire comprendre les choses qui jusque-là restaient obscures. Vous voyez, donc forcément, c'est une parole accompagnée de charisme. C'est tout à fait trinitaire d'ailleurs. Dans la parole du Christ qui donne à comprendre, il y a la puissance de la volonté qui fait s'unir à Dieu. Ou encore chez Marc, ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Alors ici, vous voyez, Matthieu 7 nous donnait l'autorité du Christ dans sa parole pour faire comprendre, pour introduire dans l'intelligence des choses divines, qui a fait que les gens étaient suspendus à ses lèvres. C'est un homme, s'il y a quelqu'un qui a eu l'autorité, c'est bien notre Seigneur. Et ça, vous savez, le témoignage se trouve chez Flavius Joseph, avec cette formule extraordinaire. En ce temps-là, parut un homme, si c'est un homme. Tellement, en fait, le passage du Christ sur terre avait laissé le souvenir d'un homme vraiment d'un charisme exceptionnel, justement, qui n'est pas le charisme c'est son charisme à lui. c'est irréductible à un chef d'État, à un militaire, à un faiseur de miracles, à je sais pas quoi. C'est le charisme du Christ. C'est fascinant, hein, mais c'est normal. Jésus-Christ, cet homme incomparable, comme disait Renan. Donc vous avez tout à l'heure Matthieu 7, là c'est plutôt le charisme du Christ, son autorité pour faire entendre les choses. Marc, là c'est plutôt pour donc chasser les esprits impurs, donc c'est-à-dire les maladies, carrément les possessions, etc. Bon, le pouvoir d'exorcisme. Alors, il y a ensuite Matthieu 9, l'évangile de ce jour, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. Ça c'est très beau. Là, on voit les dimensions ecclésiales de saint Matthieu. C'est-à-dire que ce pouvoir du Christ pour pardonner les péchés, qui est un pouvoir strictement divin, l'institution du sacerdoce lévitique, puis du sacerdoce de la Nouvelle Alliance, donc ce pouvoir divin, a été transmis en vertu de la succession apostolique aux hommes. Et donc, il fait partie du dépôt, hein, de l'autorité dans l'Église, qui fait qu'aujourd'hui, les pécheurs peuvent avoir confiance que leurs péchés sont remis par Dieu dans un pouvoir qui est remis aux hommes. Là, il y a quelque chose de très très fort sur la continuité entre le Christ et son Église. Comme disait Jeanne d'Arc, le Christ et l'Église mettent à vie que c'est tout un. Alors, toujours l'autorité sur les esprits impurs. Il y a celui sur lequel il faut terminer, je pense, qui est Matthieu 28. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est comme ça que se termine l'évangile selon saint Matthieu. Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre est une citation de Daniel chapitre 7, à savoir lorsque l'on dit qu'au Fils d'homme, il a été donné toute autorité au ciel et sur la terre. Donc le Christ revendique cette condition-là du Fils de l'homme de Daniel, c'est-à-dire le juge eschatologique, celui qui auquel Dieu a remis la seigneurie sur la création, sur l'univers, donc pour récompenser les bons et pour châtier les pécheurs. Donc là, on est très proche de l'évangile du jugement dernier, d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il est chez saint Matthieu. Donc ici, vraiment, l'autorité désigne la puissance qui se trouve en Dieu, hein, parce qu'il est le Créateur. Et que du coup, il fait tout pour mener sa création à bonne fin, y compris d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, hein, le mystère pascal devient une manifestation de l'autorité de Dieu lui-même, puisque c'est le moyen le plus approprié que Dieu a trouvé d'accomplir son dessein bienveillant de rachat des captifs, des pécheurs. Donc le Christ revendique vraiment cette seigneurie universelle, qui est finalisé par l'accomplissement du dessein ultime de Dieu, c'est-à-dire d'arracher les pécheurs à la captivité et de les rendre amis de Dieu. Donc vous voyez, ici en fait on rejoint un petit peu la notion de service, simplement ici vu du point de vue de l'exercice positif de la puissance, c'est-à-dire que cette puissance se trouve dans notre Seigneur, c'est une puissance qui est vouée à porter ses fruits pour instaurer le royaume de Dieu. Simplement les modalités, le service c'est la modalité en quelque sorte, hein, suivant lequel s'exerce cette puissance. Et donc en ce cas, pouvoir et service sont bien deux notions vraiment inextricablement liées dans l'évangile. Le pouvoir c'est la capacité active, le service c'est la modalité de mettre en œuvre cette capacité active. Et les choses ne sont pas du tout contradictoires, bien entendu. C'est même les deux faces de la même action eschatologique du Christ Sauveur qui envoie son Esprit Saint. Et donc c'est vraiment là, je crois que c'est comme ça qu'on arrive à une conception complète, hein, de ce que c'est que le pouvoir et le service dans l'Église. Retenez donc ce résumé: le pouvoir c'est la capacité active, le service c'est la modalité d'exercer ce pouvoir. Et c'est ça qui doit, eh bien, certainement inspirer tous ceux qui ont une autorité quelconque sur eux-mêmes, sur les autres, de façon à le faire pour ad maiorem Dei gloriam. Oui, je termine par une citation jésuite. Ça me fait très plaisir parce que j'aime beaucoup les jésuites. Et voilà, je termine là-dessus. Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir ouvert cette session là, qu'avec une réflexion.